Radio La Fin du Monde arrive dans quelques instants. Restez bien accrochés à vos fauteuils.
Je suis pas content. J'en ai marre, les gens, ils pensent qu'à râler. Ça me fait chier.
Ça fait chier, ça fait chier. Ça fait chier, ça fait chier. Les gens font que râler.
Ah, toujours en train de gueuler. Le voisin, tu vas dénoncer.
Déjà, c'est le début de la nouvelle année.
Le début de 25, c'est déjà là.
Oh, oui, ça fait un peu chier, mais oui.
Putain.
Bon, ben, on est un petit peu surpris, mais voilà.
On va faire avec.
Ouais, je sais pas ce que va être le début de 2025.
Écoute, pour l'instant, ça me fait pas chier. Je sais pas pourquoi. On est plutôt positif.
Pour l'instant, il y a quelques bulles, effectivement, qui ont popé parmi le marasme de la fange mondiale ambiante.
Petite bulle de bonheur, c'est gaillante. Une sorte de champagne qui sort de la fosse de Marianne. Comme quoi de la noirceur peut sortir une forme de légèreté.
De la couleur, de l'espoir. N'est-ce pas un petit peu la profession du poète que de susciter l'espoir, être un professeur d'espérance? Parfois quelques lunes, quelques vidéos TikTok, quelques reels peuvent tout à coup, un matin, venir vous égayer des news que l'on pensait être du gorafi, mais qui pourtant ne le sont pas.
Non, non. Si vous ne croyez pas au cigogne et au bébé, ça, par contre, fallait y croire. Mais c'est vrai que le sentiment était proche quand même. Nous, on les fasse chier.
Bordez la queue.
Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue en direct des studios de Radio Galère à la Friche de la Mel de B. Nous sommes ici pour l'émission Radio La Fin du Monde en direct. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Binis.
Eh bien, bonsoir Richard. Bon, comment vas-tu, mon cher Richard? Bonsoir, chers auditeurs. Ravi de vous retrouver pour cette donc nouvelle fin du monde. Encore une, la première de 2025, hein, nous avions conclu 2024 avec brio, avec fraternité, et nous comptons donc entamer 2025 d'un très bon pied, hein, bon pied, bon œil, si je me sens un petit peu d'humeur taquine, hein, naturellement.
Ouais. Tout à fait, Blinis, tout à fait, effectivement, c'est la première émission de cette année 2025, après un cru 2024 tout à fait particulier. Nous souhaitons en ce jeudi 9 janvier 2025 la Sainte Alix et également la Saint Mbegan. Du coup, petite salutation à nos amis sénégalais en direct de Dakar, à tous ceux qui parlent Wolof et d'autres dialectes de la région. On vous salue, je te salue également, hein, mon petit Jean-François qui est en vacances là-bas, si tu nous écoutes. Pense à moi en allant pêcher du poisson.
Et une bonne installation à Hélène pour sa nouvelle vie.
Tout à fait. Hélène, nous pensons à toi. C'est encore cette période analytique qui s'arrête. Nous tenons à rendre aujourd'hui, en ce 9 janvier 2025, également un hommage cuisant et important. Je tiens à saluer les 125 ans de la disparition de Louise Michel ici à Marseille. Louise Michel, la Vierge Rouge de la commune. Nous pensons à toi. Merci pour tout ce que tu as laissé pour nous. Et le combat ne fait que continuer.
À notre bonne mère. Hasta la lucha siempre.
Cette émission spéciale va donc démarrer dans notre studio. Un pléthore d'invités qui se compte vraiment sur le doigt de la main. Bonsoir à toutes et à tous.
Bonsoir.
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 Oui, alors nous recevons ce soir ce pléthore d'invités qui prendra la parole dans quelques instants pour un débat complètement inédit où nous ferons intervenir notamment une essuie-glaçothérapeute, donc une spécialiste de l'hypnose en voiture qui va opérer de manière assez itinérante, se poster au feu rouge Vous avez l'habitude à des feux rouges d'être alpagué par des personnes qui veulent bien souvent faire la manche, des personnes qui vont vous proposer de laver votre pare-brise, qu'il soit propre ou sale, bien souvent à vos dépens. Et il y a également ces essuie-glaçothérapeutes. Alors, Christiane, qui nous parlera de son métier dans quelques instants.
Oui, bonsoir.
Bonsoir, Christiane. Alors, Christiane, essuie-glaçothérapeute,
oui.
C'est un métier que vous pratiquez depuis maintenant près de 3 ans,
oui.
En auto-entrepreneuse.
Bien sûr, bien sûr.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement en quoi consiste votre profession?
Eh bien, pour faire simple, je suis parti d'une idée, toute bête. Hein, le temps de thérapie, souvent, les gens ne peuvent pas l'avoir. Et puis, on a vu avec le Covid, notamment, hein, on devait rester chez soi, mais ça a eu des gros impacts sur la santé mentale de la population. Et on s'est retrouvé avec un déficit de rendez-vous sur Doctolib. Donc moi, je me suis dit, il y a une opportunité, parce qu'il y a plein de gens qui veulent des rendez-vous, mais il n'y a pas assez hein, de personnes. Et on a vu aussi que les pratiques alternatives ont explosé également. Hein, je parle des naturopathes, hein, je parle de nombreux collègues hein, qui explorent avec moi un peu les sciences humaines qui donc divergent, je dirais, du trope classique et officiel hein, qu'on va retrouver notamment dans les ministères de la Santé, etc., etc. Et donc, cette essuie-glaçothérapie,
comment l'idée elle vous est venue un petit peu, voilà. Comment ça fonctionne déjà? Vous arrivez, vous toquez, vous commencez à rencontrer, peut-être que je pourrais raconter notre rencontre.
Alors, oui, c'est vrai qu'on s'est rencontrés dans ce cadre-là et vous m'avez invité à l'émission. D'ailleurs, je vous en remercie. Hein. C'est vraiment super de faire découvrir aux gens les nouvelles pratiques qui sont de la médecine très douce. Hein. Voilà. Mais en même temps aussi de la médecine efficiente, puisque, donc, comme je l'ai dit, il y a gain de temps, et les éditeurs vont comprendre, on s'est rencontré donc au feu rouge qu'il y a juste après la sortie donc de l'autoroute hein, au niveau de la gare Saint-Charles. Vous attendiez pour pouvoir bifurquer sur la droite et rejoindre notamment la porte d'Aix. Et bien c'est là que moi je suis intervenu, je suis apparu et bien sûr, alors je me suis démarqué hein, naturellement.
J'ai vu, je vous ai vu de loin, je vous avoue, au feu rouge, il y avait 3-4 bagnoles devant moi et je vous ai vu vous pencher sur la première. Alors, excusez-moi, un petit peu de loin, il y avait du Mistral, donc vous étiez un petit peu bâché. Il y avait votre imposante chevelure qui était dans le vent, hein, dans le Mistral.
Bon, oui, c'est comme ça que je me sens plus libre, oui, tout à fait.
Ah non, mais ça, c'est, vos choix capillaires ne sont pas à remettre en cause. Mais cependant, voilà, vous aviez une silhouette donc, dans ce clair-obscur. Hein, c'était 16h30 à peu près,
oui.
au début du mois de décembre. Donc ce jour-là, enfin, ces journées-là en décembre sont assez courtes. La nuit tombe extrêmement rapidement. Qui dit nuit à Marseille dit atmosphère parfois hein, qui peut laisser, lorsque le froid est présent, des sensations parfois un petit peu crispantes, notamment lorsqu'on est en voiture. Moi, ça faisait 35 minutes que j'étais bloqué sur l'autoroute du soleil. Il y avait eu un carambolage, un petit accrochage. Donc voilà. Et souvent, on est extrêmement pressé de vouloir retourner chez soi.
Oui.
Et vous avez toqué à ma vitre. Je vous ai fait ce geste de refus, même si dans mon... je n'étais pas intéressé par la prestation que vous proposiez. Et j'ai vraiment été surpris de ce regard, non pas froid que vous m'avez jeté, mais un regard au contraire plein de chaleur.
Oui, bien sûr. Je pense que c'est aussi important. Moi, je propose des services pour que les gens s'améliorent, hein, aillent mieux dans leur quotidien. Après, je les laisse saisir les opportunités qui se présentent à eux. Moi, j'ai saisi cette opportunité justement donc, de créer ce nouveau métier, cette nouvelle discipline médicale. Je ne suis que dans le partage. Donc, si les personnes n'ont pas le temps, je peux comprendre hein, le stress, le boulot, les embouteillages quotidiens. Marseille a encore fait partie du top 10 des villes européennes les plus embouteillées. Hein, c'est sorti dernièrement. Mais voilà, c'est pour ça que c'est aussi un terrain idoine pour ce genre de pratique et que donc on retrouve des profils psychologiques qui sont beaucoup plus susceptibles. Hein, d'avoir l'étincelle. Parce que c'est toujours ça que je pense, c'est d'essayer de créer l'étincelle dans la personne que j'ai en face de moi derrière le pare-brise. Alors bien sûr, je m'habille de manière généreuse, hein, si vous voulez. si vous voulez tout savoir, puisque bah, forcément, ça aide un petit peu plus à maintenir le regard. Malgré mon grand âge, ça fait plus de 10 ans que je pratique le crossfit en soi. Hein. Donc, c'est aussi une mesure, voilà, comme vous l'avez dit, les rues de la ville, l'hiver, peuvent être un peu désertes, froides, venteuses, et on peut s'y sentir un peu mal. Voilà, donc j'ai pratiqué pendant 15 ans le full contact également. Donc, voilà, c'est pour ça que je peux me permettre cette pratique, hein, à toutes les personnes qui peut-être pourraient être séduites après cette présentation. Attention, ce n'est pas une pratique qui peut s'appréhender de manière facile, en tout cas pour les femmes, je parle.
On reviendra sur les formations que vous proposez un petit peu plus tard.
Oui, 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 bien sûr. Plusieurs cordes à mon arc.
Alors, la suite de notre rencontre, vous avez toqué à ma vitre et voyant mon refus, vous vous êtes positionné devant mon pare-choc et vous m'avez fait ce signe très distinctif. Au début, je me dis, mais quelle chorégraphie un petit peu idiote est-elle en train de me faire ? En fait, tout simplement, vous étiez en train d'imiter les essuie-glaces.
Oui.
Et justement, j'ai été happé, hypnotisé littéralement, et j'ai allumé mes essuie-glaces également.
C'est ça.
Et c'est à partir de ce moment-là que l'expérience que vous m'avez fait vivre, je pense, a véritablement démarré. Parce que l'instant d'après, vous vous trouvez non plus en face de moi, mais à côté de moi. Et là, nous sommes dans les embouteillages.
Oui,
nous avançons à pas extrêmement lent. Donc je me souviens, nous étions à ce moment-là, au début du boulevard de Paris, près le rond-point. On se dirigeait vers le boulevard de Strasbourg. On tournait à droite. Et c'est là où vous m'avez laissé le choix à ce feu.
Oui, oui, oui.
Est-ce que vous vous souvenez ce que vous m'avez dit, Christine ?
Ah, très bien. Chaque séance avec les patients est aussi une occasion formidable d'apprendre. Et donc, j'enregistre discrètement toutes mes conversations. Et je vous ai demandé, alors, sur quelle vitesse vous allez partir ? Et oui, parce que sur les essuie-glaces, voilà, il y a plusieurs vitesses. Hein. Et puis, bah, c'est un peu le début de la thérapie, c'est-à-dire que c'est le premier pas en soi. Hein. Selon la vitesse qui va être choisie par la personne, on va pouvoir aussi deviner l'état psychologique, hein, son état mental et l'activité cérébrale qu'elle a à l'instant même. Hein. Et de ce fait, on va pouvoir orienter donc, le traitement de manière idoine et adéquate hein, vers des fréquences plus ou moins fortes, plus ou moins rapides, hein, qui vont donc permettre d'établir hein, une espèce de routine, un premier pas donc, sur un chemin dans le but donc, bah, de retrouver cet équilibre hein, qu'il nous manque tellement. Et c'est une forme de zénitude, hein, notamment bah, dans la ville de Marseille, hein, où c'est toujours un plaisir de conduire sans euphémisme.
Absolument, absolument. Et donc, on a effectué ces 300 mètres ensemble et vous m'avez parlé de mes addictions. De suite, vous avez mis le doigt dessus, j'allais m'allumer une cigarette et m'avez posé cette question, est-ce vraiment la cigarette que vous allumez ? Et je n'ai pas su quoi répondre. Je pense que c'est une question à choix multiples en termes de réponse.
Oui.
Et je suis toujours en train d'élaborer la réponse à cette question. Que pour le moment, étant donné qu'elle n'est pas terminée, je ne dévoilerai pas aux auditrices et aux auditeurs.
Non, de ça reste très personnel.
Cependant, est-ce que vous pouvez peut-être poursuivre la présentation ?
Quand je vous ai donc posé cette question sur les addictions et les cigarettes, déjà, ce qui m'a... Et il faut savoir une chose, c'est que je vous ai trouvé dans la voiture, il n'y avait pas de musique, il n'y avait pas de... Non. Voilà, tous les signes étaient, alors pas au vert du coup, au contraire même, étaient au rouge pour vous d'une certaine manière. Hein. Et donc ça, c'est un premier signe pour détecter les personnes qui ont plus besoin de mon assistance et qui donc sont également susceptibles d'être les plus responsives, comme on dit en américain, hein, sur ce genre de méthode. Et c'est pour ça d'ailleurs que ces 300 mètres, vous ne les avez pas vus passer.
Pas du tout.
Donc on utilise une base quand même de neurosciences. Hein. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai réussi à vous faire activer vos essuie-glaces, hein, puisque le cerveau est naturellement programmé pour suivre les rythmes qu'il voit ou qu'il entend. Et donc en imitant les essuie-glaces avec mes mains, hein, j'utilise donc ce biais cervical qui donc m'a permis tout simplement hein, de vous hypnotiser, de rentrer dans la voiture pendant que vous y étiez tout simplement en train de faire suivre hein, le battement régulier de vos essuie-glaces. Et c'est là que j'ai vu le cendrier, c'est là que j'ai vu, pas que des mégots de cigarettes, si vous voyez ce que je veux dire aussi. Voilà, d'autres choses, d'autres subtilités. Et voilà, de suite, voilà, on arrive par l'observation hein, faire entrer le patient dans un état de réceptivité maximale. Et puis c'est là qu'on a justement le choix où il est pas vulnérable en soi, mais on va dire que c'est c'est une forme de livre ouvert à ce moment-là. Hein, et c'est là qu'on va pouvoir justement venir explorer les névroses, les problèmes psychologiques qui se présentent, hein, les non-dits, les hontes, les blocages. Et vous l'avez bien dit, hein, en vous posant cette question donc, sur la cigarette, aujourd'hui vous êtes sur un chemin.
Je suis sur un chemin boueux, très souvent. Je glisse.
Ah oui, j'ai pas dit que ça serait facile, en tout cas.
On n'est pas sur un chemin d'égout, de quoi, si vous voyez ce que je veux dire, assez sec et rocailleux, sur lequel, voilà, on peut avoir un pas ferme.
La prise facile, ouais.
Une prise facile, non, loin du tout. Et c'est là où ensuite, je me pose cette question, combien de séances d'essuie-glaçothérapie vous réalisez en moyenne? Vous faites des shifts de combien de temps? 3-4 heures? Vous restez sur la même zone? Ou vous laissez bivouaquer un petit peu? Parce que je vois que vous pouvez faire 100 mètres, 50 mètres avec une voiture, un automobiliste, une automobiliste.
Oh, vous savez, j'ai fait 250 km avec un camionneur il y a 2 semaines. Hein,
ah oui.
Oui, bien sûr. On a roulé toute la nuit.
Comment c'est pensé?
Il m'a déposé pas trop loin au sud de Lyon, je crois, quelque part, près d'une centrale nucléaire. C'était super. Alors, ça dépend. J'exerce à divers endroits, bien sûr. Hein. Alors, ce qui est bien à Marseille, c'est qu'il n'y a vraiment que 3 grands points d'accès dans la ville et que donc, on peut facilement trouver des hauts lieux d'affluence. Et c'est un peu comme, vous savez, la médecine moderne, maintenant, on a lundi tel cabinet, mardi tel cabinet, mercredi, on se repose, jeudi tel cabinet, etc. Oui, eh bien, moi, voilà,
les thérapeutes sont souvent fermés entre 4 murs, le cabinet, ouais. Voilà. Ça rappelle vachement la caserne, sauf que les murs sont pas gris et mal entretenus, mais sont tout d'un blanc immaculé, oui. Voilà,
très neutre.
Futuriste, très neutre. Non,
et on n'est pas dans le vrai. On change de dimension quand on rentre dans un cabinet, quand on rentre dans ce bâtiment. Enfin,
non, il y a l'odeur. Il y a l'odeur dans le cabinet.
Aussi, voilà, il y a l'odeur. Il y a les spécialistes, bien sûr. Il y a les familles dans la salle d'attente, selon qu'on est plus ou moins fortuné en fonction de notre thérapeute. Mais voilà, moi ce que je veux, c'est déjà changer ça. Mon cabinet, c'est l'extérieur, ce sont les conditions qui justement ne vous stimulent plus. Quand on est bloqué dans un embouteillage à la sortie d'une autoroute à Marseille, enfin, je veux dire, le degré d'activité cérébrale, il est quasi nul, quoi.
Très très peu. Ça dépend pour les personnes qui écoutent la radio. Les auditrices et les auditeurs de Radio Galère nous comptent souvent, lorsqu'ils sont coincés dans les embouteillages, émissions qui passent sont souvent source d'épanouissement, de questionnement et de compréhension aussi, hein, pour essayer d'entrevoir un peu mieux la société qui s'offre à nous, hein, chaque jour.
Oh, je suis certain que les auditeurs de Radio Galère sont fort bien traités, hein, et ils sont très chanceux justement d'être les fans de cette magnifique radio associative que l'on retrouve donc à la friche de la Mel de B. Mais malheureusement, il reste encore beaucoup d'auditeurs potentiels qui ne sont pas du tout au courant, hein, de la fréquence de Radio Galère et de la qualité de ses programmes. Donc je rappelle 88.4. Hein. D'ailleurs, si vous voulez faire une petite dédicace, nous parler de votre amour pour la radio, alors peut-être prendre rendez-vous avec moi, bien sûr. Je suis un peu sorti du système, je refuse Doctolib, puisque voilà, on nous ponctionne 25% de nos revenus. Enfin bon, je passe, hein, ça c'est le quotidien des naturopathes et autres non spécialistes non reconnus par le ministère de la Santé. Mais voilà, contactez-nous au 04 91 08 28 10. Ouais, j'ai l'honneur de donner le numéro, je me permets. Hein. Mais en même temps, je m'étais tellement permis de rentrer dans votre voiture la dernière fois que...
Vous savez faire les choses, vous savez rentrer dans l'intimité des gens avec l'élégance d'un chat domestiqué. C'est-à-dire que vous êtes là, vous faites comme chez vous, mais on est heureux que vous fassiez comme ça.
Oui.
C'est assez paradoxal. Moi qui possède une quinzaine de chats à la maison, voilà, je sais que je ne suis pas le maître. Clairement, comme le disent nos coreligionnaires américains, je suis dans une forme de capitalisme complètement névrosé. Là, je pense que... D'ailleurs, vous...
Écoutez, si on se recroise, hein, on a dit qu'on reprenait rendez-vous après l'émission, mais oui, si on se recroise, on pourra justement compléter cela. Et c'est en soi que mon cabinet est changeant et que donc je peux prendre rendez-vous avec les automobilistes. Hein, ils m'envoient le dimanche soir donc leur planning de la semaine. Hein, donc j'ai pas mal d'informations sur eux et je peux à peu près évaluer donc les timings et puis on se donne rendez-vous. Hein, et puis on est parti, voilà, ça peut durer 100 mètres, ça peut durer 300 mètres. Parfois même je rentre chez eux, hein, je rencontre leur famille, hein, je dîne avec eux, hein, mais J'ai une philosophie où je ne lâche pas. Voilà. Dès que je suis sur quelque chose, tant que je ne vous ai pas fait faire un pas significatif, en tout cas, ou du moins conséquent, vraiment, la séance ne se termine pas, mais le tarif ne change pas. Ça, c'est aussi quelque chose d'important à dire. Hein. Souvent, donc, une session avec un spécialiste, ça peut monter très vite, et puis c'est timé, quoi. 45 minutes, 1h30, chacun a des méthodes différentes. Hein. Moi, je pratique un tarif unique. Voilà. Je t'ai acheté un tarif unique, c'est 50€, et peu importe que ça dure 100 mètres, 300 mètres, ou jusqu'au bout du monde, dans le dernier fjord de Norvège, il n'y a pas de problème, on y restera. Et on ira jusqu'au bout, jusqu'à que le nécessaire soit fait.
J'ai sous les yeux plusieurs avis qui vous ont été laissés sur votre compte Doctolib, qui est maintenant fermé, mais auquel on a toujours accès. On a Maryse qui vous dit... Je ne pensais pas que regarder mes essuie-glaces pouvait changer ma vie, mais depuis, j'ai arrêté de stresser pour rien. Ça a l'air d'être un... On a également Franck qui nous dit, franchement, c'est mieux qu'un psy, et ça coûte rien, juste un peu de pluie. Voilà.
Oui.
On a également Christophe, ce type, un magicien, il a balayé ma colère comme une goutte sur mon pare-brise.
Oui, c'est ça que j'aime bien aussi, c'est pouvoir aussi... redonner toute utilisation du rêve chez les patients, c'est libérer. C'est un peu comme si leur cerveau était entouré d'une couronne d'aubépines, hein, un peu comme Jésus-Christ, et qui les empêchait d'aller piocher justement dans cet imaginaire, d'aller chercher dans l'au-delà, de retrouver un petit peu l'enfant qui sommeille encore en eux. Hein, je sais que voilà, c'est un des grands torts de nos sociétés actuelles que de diaboliser un peu l'enfance au-delà de la période biologique. Hein, je pense que l'enfance, c'est quelque chose qui doit durer toute la vie, qui est un état fondamental pour les êtres humains, pour la manière dont nous nous développons, dans notre rapport aux autres, hein, naturellement. Et donc, en essayant de retrouver ces jeux simples d'imitation, hein, de simples essuie-glaces qui passent, ça rappelle un petit peu, si vous préférez, vous savez, ces hochets ou alors ces... ces suspensions qu'on avait au-dessus du lit, hein, qui tournaient en mouvement, qui faisaient du bruit et de la musique, hein, c'était assez redondant, mais ça tournait, et il y avait un côté réconfortant. Et c'est ce que j'essaie aussi de retrouver parfois donc dans les essuie-glaces, ces situations qu'on a inconscientes, hein, donc au fin fond, notre psyché qui était en plein développement à 2, 3, 4 mois peut-être. Hein, donc on va vraiment chercher jusque-là.
La réminiscence.
Exactement, c'est la réminiscence de... Donc de cette mémoire enfouie, de ce junk DNA, hein, parce que voilà, aujourd'hui on se découvre qu'il y a 90% de notre ADN qui ne sert à rien, et en fait si, c'est ce junk DNA sert et pourrait potentiellement donc contenir nos souvenirs, notre mémoire, etc. Et donc on essaie de réactiver justement ces circuits d'ADN par l'ARN et par la répétition, et on arrive du coup à faire ressortir cet enfant, et donc on les aide à aller piocher un petit peu plus donc dans leur imaginaire, à sortir de leur cadre, à sortir vraiment de derrière leur volant, sortir de ce cube de métal qui roule à des vitesses folles, hein, et qui est l'objet aussi de notre désillusion et de nos stress. Hein. Enfin, la voiture à Marseille... Si on pouvait produire de l'énergie avec les décibels qui sont produits chaque jour dans les embouteillages de Marseille, la ville de Marseille n'aurait plus besoin d'énergie pendant 15 ans, journée.
Au moins, absolument. Absolument.
Voilà. Donc toute cette énergie, il faut la transmuter. Hein, il faut la changer, il faut la convertir. Vous me dites que vous êtes sur un chemin boueux, c'est un début. Il y en a qui commencent, ils sont littéralement dans le goudron ou les sables mouvants. Voilà, vous, déjà, vous pouvez avancer. C'est déjà une première étape sur votre chemin. Et d'autres, voilà, sont au-delà. Ils sont déjà sur l'asphalte avec un vélo et ils sont en train de kiffer. Littéralement. Ouais. Voilà. Mais ça viendra après, au fur et à mesure des séances.
Au
fur et à mesure des rencontres au feu rouge, hein, toujours le même. Voilà, on prend rendez-vous et je suis là.
Je l'espère, Christine, je l'espère. Vous avez également tenté, hein, de vous occuper d'une patientèle en deux roues. Soit à vélo ou en scooter.
Oui.
J'ai cru comprendre que vous étiez heurté à une véritable montagne, pour ne pas dire Himalaya, infranchissable, sur lequel vous avez dû rebrousser chemin. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, des altercations physiques, j'ai cru que vous aviez précisé un petit peu plus tôt dans votre présentation que vous avez été ceinture noire de full contact.
Oui. Donc moi-même, je n'ai pas...
Steven Seagal lui-même vous a...
Oui, il est venu pour une petite leçon alors qu'il était en vacances, pas trop loin de Saint-Tropez. Donc j'ai pu le rencontrer. D'ailleurs, dans le dojo de la...
Très intime.
C'était dans le dojo de la villa de David Douillet, vous savez. Alors, pas qu'il a eu après qu'il ait été champion du monde, non, après qu'il ait été ministre des Sports, il a pu se payer une petite villa. Donc, bah, c'était très sympathique, c'était très bien agencé. Et donc, avec Steven, on a échangé quelques bases d'armes. Hein, voilà. Donc,
un c'était peu d'aïkido.
Aïkido, Krav Maga, Sambo également. Voilà, on est aussi passé voilà, les techniques d'assassinat au coup de poing chinois. Enfin, bref. Il existe plein de formes de défense.
Je vous vois rougir à l'évocation de ses souvenirs avec Steven. Oh là là, ça doit être la folle époque. C'était il y a quoi ? C'était il y a une vingtaine d'années, ça.
Quel homme ? Non mais lui, de toute façon, jamais j'aurais pu rentrer dans sa voiture. Hein. Parce, quel homme
vous pensez ?
Droit dans ses bottes, spirituellement.
Est-ce que déjà, il a une voiture, Steven ?
Pas exactement. Il se déplace tout le temps à cheval. Ouais, donc il a fait Los Angeles... Saint-Tropez à cheval, juste pour venir faire ce petit sparring match, une trentaine de minutes, quoi.
Ouais. Avec un mois de traversée en bateau. Oui. Il n'est pas descendu
du cheval. Non, il n'est pas descendu du cheval. Il fait des tours sur. Il loue des places sur des porte-conteneurs. Il a un conteneur spécifiquement pour lui qui est placé à un endroit bien particulier.
Un conteneur écurie.
Conteneur écurie, tout à fait. Et donc qui est directement au niveau du pont. Alors, ça, c'est une invention notamment du grand palefrenier de l'émir du Qatar, hein, le porte-conteneur équestre. Donc, grande invention. Et qui donc a permis à Steven hein, de ne pas déroger à sa philosophie de vie. Et qui a pu donc toujours être dans le ressenti, dans la nature, dans le contact avec le vivant. Parce que voilà, c'est ça aussi qu'il recherche, Steven, c'est le contact avec le vivant. Voilà. Peu importe que ce soit lui qui rentre en contact avec le vivant. C'est souvent ce cas-là. C'est rarement le vivant qui rentre en contact avec Steven. C'est souvent Steven qui rentre en contact avec le vivant.
On va refermer cette parenthèse cinématographique pour revenir à la question que vous avez évitée.
Non, je ne suis pas vraiment invité. Alors oui, sur ces altercations, comment dire...
Vous avez
dire,
eu des ennuis avec plusieurs
j'ai eu des
cartels,
ennuis.
Je dirais.
Oui, malheureusement.
Vous êtes attaqué à...
Je me suis pas attaqué, j'ai eu la chance, enfin la malchance de proposer mes services thérapeutiques à des gens qui étaient en train de travailler. Mais pas exactement... voilà. Donc, qui ne portaient pas forcément le casque, etc. Qui étaient en train de travailler, qui étaient assez pressés. Alors, ils avaient des espèces de gros sacs à dos bleus derrière avec un kangourou dessus.
Ouais, Christian.
Et
ouais.
Ils n'avaient pas trop le temps de... Enfin, ils me disent, j'ai pas le temps. Alors que je voyais dans leur... regard et dans leur body language, comme disent les Américains, il y avait quelque chose, il y avait du stress, il y avait du désespoir, il y avait quelque chose qui pour moi me permettait justement de m'insérer comme j'ai pu le faire donc dans votre subconscient hein, comme un chat, vous l'aviez si bien dit et de manière si délicate, sauf que malheureusement j'ai rencontré une force mentale qui m'empêche d'entrer. C'est pour ça que je reste modeste avec cette nouvelle ce type de thérapie, puisque j'ai pas encore réussi réellement à approfondir et à percer quelques couches. Hein. On a quand même bien avancé. Hein. Il y a déjà eu plusieurs symposiums hein, depuis une quinzaine d'années, naturellement, dont je suis la présidente. Et on a bien avancé, on a beaucoup progressé. Mais voilà, il y a des choses qui, pour l'instant, on ne comprend pas. Enfin, on ne comprend pas le trou noir, on ne comprend pas la formation de lunaire. Bon, ben non, on ne comprend pas pourquoi il y a des gens qui sont pour l'instant encore réfractaires hein, à nos méthodes. Nos méthodes d'analyse et nos méthodes de mise en contact. Et donc, des altercations, puisque voilà, on m'a violenté, on m'a poussé, on a essayé de me rouler dessus.
Trois scooters.
Trois scooters en Y qui sont arrivés. Alors, j'étais en train de traverser, de faire mon... J'avais changé, je voulais changer un peu de technique, changer un peu de population. Là, j'étais beaucoup sur les sorties d'autoroute, donc beaucoup de camionneurs. Hein, camionnette, voiturette, etc. Mais très peu de deux roues. Alors je me suis dit, pourquoi pas me mettre un petit peu donc, au croisement des réformés. On y fait toujours des rencontres incroyables à toutes les heures à Marseille. Hein. Je vous laisse avec ce fameux roman Le Vortex des réformés hein, de l'écrivain marseillais, le grand mystérieux, hein, donc Marcel Palansombre, naturellement. Et malheureusement, la population de deux roues marseillaise qui ne prend pas l'autoroute est bien différente. Et trois hommes sont arrivés. Il y en a un qui est arrivé.
On parle des 50 cm³. Pour les auditrices et les auditeurs, oui. On parle des 50 cm³ à Marseille, oui. Sans casque bien souvent.
Oui, souvent. La plupart du temps.
Et c'est souvent...
Le plus souvent, le plus souvent, régulièrement, on va dire, de manière quotidienne, vous essuyez des agressions verbales, voire non-verbales, juste d'un simple regard de la part des conductrices ou des conducteurs de 2 roues 50 cm3 qui ne mettent pas de casque. Vous avez d'ailleurs été contacté par la brigade motorisée de la police municipale de Marseille pour justement essayer de mettre en place des zones de contrôle où vous allez pouvoir justement aider non pas la verbalisation avec les agents détenteurs de la force publique à l'établissement des contraventions, mais vous êtes plutôt justement dans une forme de prévention. C'est un pied de nez qu'a décidé de prendre la mairie de Marseille à la répression intempestive des casques, des sans-casques sur les deux roues. Et ça a été un échec cuisant. La municipalité n'a pas voulu reconduire cette expérience, bien que...
L'idée de base était quand même assez bonne, hein, donc pouvoir définir donc ces périmètres sécurisés, notamment au regard de la loi. Hein, j'étais totalement couverte, bien sûr, par donc, un contrat auprès du ministère des Armées, ministère de la Santé et également, donc, bien sûr, ministère de l'Intérieur. Et donc... on a pu établir donc un périmètre à l'aide notamment de 124 caméras sur une surface qui fait à peu près 40 par 50 mètres de long, voilà, le long du boulevard Baille notamment, et voilà, où j'ai pu donc tenter de faire de l'hypnose donc avec l'essuie-glaçothérapie, mais sur des 50 cm3 sans casque, en essayant de les convaincre que le sans casque, c'était pas cool. Voilà, dans le sens où
c'était pas esthétique. Pourtant, c'est une question d'esthétique, bien souvent.
Pas du tout.
Le gel.
Non, on n'est plus dans les collègues, enfin. C'est fini cette histoire de gel. On sait très bien que c'est un geste d'affront, de défiance à l'autorité, un espèce de cri de liberté qui est poussé par ces gens-là et qui expriment donc, ils ont besoin d'exprimer cette liberté et qui le font en se mettant en danger. Parce que c'est d'abord ça, il faut le rappeler, hein, ne pas mettre son casque, c'est aussi, et de manière primaire, se mettre en danger. Et donc pourquoi ces gens-là s'exposent à ce point-là au danger ? Donc je savais qu'il y avait quelque chose. Il y avait à creuser, il y avait du matériel. Et malgré donc tout ce dispositif policier, je n'ai jamais pu convaincre un seul de scooter de 50 cm3 qu'en fait le casque c'était cool. Malgré toutes mes tentatives d'hypnose, sous bonne garde, parfois j'avais une compagnie de CRS qui m'accompagnait et qui parfois immobilisait les chauffeurs les plus retors, on va dire, hein, et donc à qui je performais donc l'essuie-glaçothérapie avec donc un pare-brise portable sur lesquels j'avais monté deux moteurs, parce que les scooters n'ont pas de pare-brise, donc forcément, c'est là qu'est toute la question. Et donc moi, j'ai inventé un espèce de pare-brise portable que j'ai récupéré sur une 4L, sur laquelle j'ai greffé deux moteurs DX45 qu'on ne retrouve plus dans le commerce. Hein. C'est Citroën qui gentiment nous les a fournis, donc des pièces rares qui viennent de leur musée qu'on retrouve à Saint-Quentin en Yvelines. Et j'ai donc recréé tout un pare-brise, un cadre, hein, avec notamment aussi également un casque à mettre sur les oreilles. Et alors, pas un casque en entier, hein, c'est vraiment un casque qui va bloquer la vue, un peu comme les chevaux, vous voyez.
Un casque, voilà, homologué, hein, par la sécurité routière.
Bien sûr, bien sûr, préciser. Hein, qui a passé de nombreux tests, hein, voilà, notamment celui de la baguette. Et bah, malheureusement... Donc je tenais devant ces gens-là, donc ces essuie-glaces, et je me mettais donc entre eux et l'essuie-glace, hein, et on avait mis des verres grossissants justement pour que ils voient bien le mouvement de mes doigts, ils soient un petit peu forcés, il n'est que ça dans leur champ de vision, hein, donc les CRS leur tenaient la tête et puis ils regardaient, et moi je faisais le mouvement, et l'idée c'était qu'ils avaient une main de libre, enfin en tout cas le poignet était bien fixé au sol, mais ils pouvaient pianoter avec les doigts, hein, et ils pouvaient choisir, hein, d'activer l'essuie-glace ou pas, et de choisir donc la vitesse, et donc d'entrer en résonance avec moi, donc avec les mouvements que je faisais. Et à chaque fois, j'ai essayé diverses fréquences, j'ai essayé divers temps aussi, hein, je me suis jeté du côté de la musique, et donc j'ai tenté les métriques un peu audacieuses, voilà, donc des nominations. Donc, d'habitude, on a des musiques en 4 temps, 4 bits sur 4 temps, et donc bah, j'ai tenté du 5-4, du 6-4, du 11 temps aussi, du 13-4, voilà, même du 17-8. qui sont des...
C'est costaud, ça, c'est du gros diamètre.
C'est assez costaud, ouais, mais... Voilà, des fois, je tombe sur leur téléphone, je regarde un peu des playlists sur leur Spotify, et puis bah, on sent parfois qu'il y en a certains, la musique pourrait être une porte d'entrée. Voilà.
Et donc, vous avez remarqué, à l'emploi de ces essuie-glaces, que ils avaient beaucoup plus d'effet sur la compagnie de CRS qui vous accompagnait, que sur les conductrices et les conducteurs de 50 cm3 sans casque.
Tout à fait.
Et ça, cela s'explique par le fait qu'en fait, ils ont simplement... peu l'habitude d'avoir affaire à des essuie-glaces et donc ce biais cervical que vous utilisez habituellement est moins efficace sur les conductrices et les conducteurs, encore une fois, de 50 cm3, qu'ils soient avec casque ou sans casque d'ailleurs.
Tout à fait, oui. Derrière, ça
c'est
a été
pareil
aussi...
pour les cyclistes.
Oui. Oh, excusez-moi.
Je vous en prie.
Alors oui, c'est ça qui est assez curieux. Pour les cyclistes, en fait, ça fonctionne seulement sur le cycliste qui a son permis de conduire.
D'accord. Oui, donc il s'est déjà retrouvé.
Mais voiture, c'est ça le, ouais, c'est ça qui est. Ça. Parce que j'ai remarqué aussi que sur les motos, donc sur les gros cubes, ça marchait de manière alternative. Et quand on regardait leur permis, ben, y en a qui avaient certes des gros cubes, mais qui avaient quand même passé leur permis voiture classique.
Vous avez eu un échantillon de test assez important, 5000 motards.
5000 motards que je suis allé chercher du coup, lors du Bol d'Or, notamment près du circuit du Castellet, des joyaux héritage de Paul Ricard.
Route, au bord de route
J'étais positionné au bord du circuit, ouais. Et j'utilisais...
On a une très belle image là.
Ouais. Vous avez vu ? C'est pas mal. Hein,
super. C'est très joli.
Vous voyez que ça attire le regard.
Non, ça attire le regard.
La plastique est aussi une arme... des neurosciences pour pouvoir fixer l'intérêt. Alors j'avoue, c'était aussi une petite recherche de sensation de ma part, tenter d'arrêter des automobilistes qui vont à des motards qui vont à 200 km/h. Ça reste aussi un challenge super personnel. Et j'ai pu donc exercer mon light kick donc, que j'ai appris auprès d'un grand maître thaïlandais pendant mes 15 ans de foot contact. Hein. Alors, ce grand maître thaïlandais, lui, il était venu en avion, je vous rassure, il n'a pas fait en cheval depuis la Thaïlande. Hein. Sa particularité, c'est qu'il avait deux jambes de bois. Ce qui peut paraître assez étonnant pour quelqu'un qui apprend les coups de pied. Et je me suis donc entraîné à timer mes coups de pied sur le bord du circuit et à gentiment relever les motards de leur moto avec la bonne force, le bon poids au bon moment pour littéralement les faire hop, décoller. Et la moto partait et le motard restait suspendu entre les airs. Et c'est là qu'un hélicoptère de la gendarmerie nationale donc passait et les attrapait donc dans un filet. Voilà. Et ensuite, donc ils passaient en vol stationnaire et les déposaient donc devant moi sur un carré de pelouse. Voilà. Et... on commençait directement la thérapie avec les moteurs. Hein, les motards, on leur plaçait devant donc, le faux pare-brise avec les fameux moteurs DRX 250 de chez Citroën. Et puis on entamait encore une fois ceci. Il semblerait que les pilotes d'hélicoptères n'aient pas leur permis de conduire. Parce que l'hélicoptère n'a jamais été affecté. Mais comme on l'a vu, les CRS ont leur permis de conduire. Hein,
il y a pourtant des essuie-glaces sur les hélicoptères.
Et il y a pourtant des essuie-glaces sur les hélicoptères. C'est pour ça que je vous dis qu'on a encore des couches à explorer, hein, qu'il y a encore des mystères à percer. Et que c'est une discipline vraiment passionnante, qui a vraiment, vraiment un grand avenir. Voilà, ma clientèle se constitue petit à petit, mais de manière assez constante. Et voilà, j'espère pouvoir obtenir au moins une reconnaissance de la part d'organismes publics. Mais ça, voilà, il faudra un petit peu patienter, un certain niveau de lobbying. J'espère pouvoir croiser Monsieur Payan à la sortie de l'autoroute et puis pouvoir lui faire une démonstration de mes talents avec sa voiture de fonction.
Vous pouvez tenter sur le Vieux-Port de l'accrocher lorsque celui-ci sort du conseil municipal.
Par exemple.
On vous le souhaite, on l'espère.
Voilà. On a plusieurs modes d'action, hein, c'est ça qui est intéressant, qui sont très alternatifs, qui sont doux, qui sont non agressifs aussi.
Vous êtes combien dans votre équipe ?
Alors, pour l'instant, nous sommes au nombre de 7 personnes.
Tout auto-entrepreneuse, c'est ça ?
Alors non, nous avons des statuts qui varient, puisque ces 7 personnes sont réparties donc, sur tous les continents. Voilà, nous avons un pratiquant donc, à peu près sur tous les continents. Hein. Et voilà, ça nous aide aussi pour partager nos best practices, comme on dit en américain, et en gestion des skills et des soft knowledge. Hein, on se transmet du coup la capacité d'apprendre et donc de reformuler et de transmettre pour faire améliorer. Donc chaque année, le symposium se déroule sur un continent absolument différent.
Cette année, il va se dérouler sur quel continent ?
Cette année, ça se déroule en Océanie.
En Océanie.
Voilà.
Quel pays en particulier? Philippines? Indonésie?
Non, on a décidé d'aller faire un petit tour chez les Kanaks. Ça avait l'air sympathique. Ouais.
Nouvelle-Calédonie.
La Nouvelle-Calédonie, oui, tout à fait. Ça m'a l'air idyllique.
Eh bien, Christine Mette, en fait, je tenais à vous remercier grandement.
Merci, Richard.
D'être venu ici dans nos studios.
Merci, La Fin du Monde.
Pour cette interview. Merci beaucoup. Chères auditrices, chers auditeurs, nous nous retrouvons après une courte page de publicité. S'il vous plaît, restez bien accrochés à vos fauteuils pour la suite. À tout à l'heure.
Radio La Fin.
Radio La Fin.
Radio La Fin.
Radio La Fin.
Du monde.
La fin du monde. Radio La Fin du Monde, nous bonsoir. Sommes de retour. Rebonsoir à nos chers auditeurs. Ce soir, un format un peu spécial. Nous avons une
sécrétion d'histoire.
Sécrétion d'histoire. Votre mensuel qui vous plonge dans les mystères, dans les replis, dans les recoins, dans les zones d'ombre de la grande histoire. Celle avec un grand H. Et aujourd'hui, nous nous intéressons particulièrement à une période qui a notamment marqué, bien sûr, notre belle ville de Marseille. Nous parlons d'une période qui également est connue comme une période sombre dans l'histoire de l'humanité. Mais nous parlions dans une période où l'ubuesque côtoie le sacré, mais aussi l'ordinaire. Et ça vous donne une myriade d'images, une myriade d'histoires, une myriade de légendes qui ne saurait être gardée silencieuse. Des légendes donc que nous apprêtons à vous faire découvrir au travers de ce documentaire Sécrétion d'Histoire. Un documentaire qui, ma foi, je le sais, saura passionner nos auditeurs.
Oui, absolument. La thématique de ce Sécrétion d'Histoire de ce 9 janvier 2025 va revenir sur cette période très souvent mentionné, très souvent étudié, mais toujours méconnu et parfois très peu compréhensif. Je veux bien sûr parler de la troisième croisade, celle qui jamais ne partit pour sa destination. Et je reçois ce soir dans les studios de la Fraîche de la Mel de B, Igor Astapoulos. Bonsoir Igor.
Bonsoir.
Bonsoir Igor, vous avez étudié longuement cette période et au cours de vos pérégrinations archivistiques, pour le formuler ainsi, vous vous êtes heurté à une pile de documents, de lettres, d'enluminures, de gravures, de témoignages oraux mis à l'écrit, assez troublants. Sur cette croisade qui devait partir de Marseille au début du XIIe siècle et qui, après plusieurs mois de préparatifs dans la caserne qui se trouve à Marseille sur l'actuel Fort Saint-Jean, la chapelle des Templiers, bien sûr, avec cet hôpital qui servit pendant tant de siècles à l'accueil des soldats en partance ou en retour de la Terre Sainte. Voilà. Igor Astapopoulov, est-ce que vous pouvez nous éclaircir sur ce pan de l'histoire ? Je me permets de mettre en fond votre dernier album auquel vous avez contribué par votre voix. Bonsoir Igor Astapopoulov.
Bonsoir.
Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement ?
Je suis Igor Astapopoulov.
Quelle est votre profession ?
Actuellement, je compose ce que vous êtes en train d'écouter. Mais d'habitude, d'ordinaire, je suis un homme qui fouille des documents secrets, qui est à la recherche d'une vérité, qui, je pense, nous est cachée et a été perdue. Je suis donc un explorateur du temps.
Igor, donc, explorateur du temps, spécialiste de la croisade, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Ici, maintenant, qu'est-ce qu'on écoute ?
Alors, j'ai retrouvé dans cette pile absolument gigantesque de documents des cantiques templiers qui, on le dit, auraient été composés pour le service funéraire futur de Jacques de Morlaix.
C'est une cassette que vous avez trouvée.
C'est une cassette que j'ai retrouvée, en effet. Ce ne sont pas des partitions anciennes, Ce sont littéralement des objets modernes sur lesquels se trouvait toute cette documentation sur cette croisade particulièrement et sur l'ordre des Templiers ainsi que Richard Cœur de Lion. Et nous, je vais vous démontrer que ce n'est pas son vrai prénom. Et que c'est une déformation.
C'est une déformation, alors. Richard Cœur de Lion, né en 1037 à Charlestown, en Angleterre.
Dans le Cheshire County.
Dans le Cheshire County. Promis un avenir radieux de monarque. Il entreprit à l'appel du pape Clément ou Honoré XII de combattre l'ennemi religieux lui empêchait de se faire une marge énorme sur les épices venues de l'Orient. C'est ça.
Dans le fondement, oui, la question de l'utilité de la religion à cette époque-là est naturellement indiscutable et la multiplication des conciles, des dogmes, des révisionnismes nous porte à penser que ce n'est qu'une question, bien sûr, de pouvoir et de contrôle de territoire. Et donc, dans cette optique, qui dit pouvoir et contrôle dit forcément gestion économique. Je ne dirais pas que l'argent est les choses principales, mais finalement, elle l'est. Sans argent, nos sociétés ne tournent pas. Et c'est cela depuis que les Perses ont décidé d'échanger quelques bouts de métal contre des vastes quantités d'autres matières. Et donc, cette idée de la route des épices, dont on ne parle vraiment que vers la fin du XVIe siècle, quand les grandes puissances européennes sont dans la capacité de se battre, c'est notamment qui ? L'Espagne catholique. Lancé par Ferdinand et Isabelle, soutenu par qui ? Par la papauté, bien sûr. Par la papauté elle-même, ainsi que les villes italiennes de Gênes et Venise. Donc tout cela découle d'un processus qui a été lancé bien avant le XVIe siècle. Et ce processus qui est donc à l'œuvre, justement, dans ce XIIe siècle et dans cet itinéraire fort farfelu qu'aura Richard Cœur de Lion.
Alors dans ces cantiques que nous écoutons là, même temps que vos palabres, est-ce qu'on pourrait avoir une exhaustive traduction de ce qui se dit dans ces chants que je tiens à préciser aux auditrices et aux auditeurs. Vous avez retrouvé près de Saint-Jean d'Acre,
oui,
en Terre Sainte, sous une pierre, vous avez trouvé une boîte en bois. À l'intérieur de laquelle se trouvaient de vieilles cassettes. Sans vouloir remettre vos découvertes en cause, est-ce que vous pouvez un petit peu expliquer aux auditrices et aux auditeurs ce paradoxe temporel dans lequel on se trouve ? Parce que des cassettes, je suis désolé, je ne suis pas spécialiste de la technologie, cependant, ça ne peut pas. Est-ce que vous avez des preuves ?
Je pense que vous prenez l'existence de ces cassettes par le mauvais bout de la question. Il n'y a pas d'anachronisme en soi. Oui, naturellement, que dans ces déclarations de but en bout, on pourrait y trouver une contrariété naturelle. Le Templier n'avait pas les technologies de la bande magnétique qui a permis donc d'enregistrer ces chants. Ce qui donc ne doit pas nous mener à la confusion, mais à une simple conclusion.
Laquelle ?
Eh bien, c'est que ces cantiques ont été transmis de génération en génération et qu'à un moment donné, il s'est trouvé l'occasion de faire l'usage des technologies de l'époque pour pouvoir les mettre sur support et ainsi préserver, puis peut-être plus facilement transmises. Nous sommes donc face à un héritage. C'est-à-dire que cette histoire commence avec, on ne sait pas trop quand, mais dont Richard Cœur de Lion fait partie et plus tard la papauté du XVIe siècle, est encore aujourd'hui écrite. Ces cassettes nous apportent la preuve que ces cantiques ont pu survivre de la création jusqu'à aujourd'hui.
Vous voulez dire que ces cassettes ne datent pas de l'époque ?
Bien sûr que non.
Ah.
Ce ne sont pas des cassettes archéologiques, seulement le contenu qu'elles nous transmettent l'est.
Donc vous vous interrogez sur...
Qui ?
Sur qui ?
Qui, bien sûr.
Qui a légué ces cassettes ?
Qui nous a légué
ces cassettes ? Ces cassettes ?
Bien sûr, bien sûr.
Dans cette boîte, à Saint-Jean d'Acre.
La destruction...
En dessous d'un petit opossum.
La destruction dans cette époque par les affrontements de la région ont permis par l'allégage de bombes de divers contentieux d'excaver certaines parties qu'on retrouvait donc en Terre Sainte. Et c'est une opportunité incroyable, c'est vraiment fortuit de passer par Saint-Jean-d'Acre. J'étais sur ce mystère des Templiers de Ricard, j'avais trouvé d'autres preuves qui m'avaient amené à penser qu'il y avait un lien. Et je suis donc, c'est le crack des chevaliers, c'est là que je pourrais craquer le mystère, comme diraient mes amis britanniques. Et ma foi, c'est une histoire de chance, ça je dois le reconnaître.
C'est rendipité un petit peu, c'est
ça? Oui, c'est tout à fait fortuit.
C'est une simple balade,
c'est
même pas en train d'archéologie.
Non, j'avais prévu ça pour d'autres jours. J'avais déjà planifié pendant 2 années les zones que j'allais pouvoir explorer. J'avais fait un prêt de 45 000 $ pour pouvoir louer des hommes et du matériel et aller creuser. Et rendez-vous compte, ma surprise, que de trouver un résultat, ma foi, fort probant, sans avoir même à dépenser un seul centime. Donc cette opération, pour moi, économiquement, est absolument désastreuse. Mais
l'authentification que vous avez réalisée auprès du MIT ne nous a pas coûté grand-chose.
Non, en soi, non. En soi, non. Du coup, j'ai quand même passé une semaine au Club Med de Beyrouth. Pour ne pas trop perdre le voyage, ce serait dommage.
Vous avez signifié sur la plateforme échange.org que cette découverte vous avait permis de vous mettre sur un piédestal par rapport à vos confrères. Est-ce que vous pouvez expliquer aux auditrices et aux auditeurs ce que c'est qu'un piédestal ?
Un piédestal, alors, le piédestal, il faut savoir d'abord qu'on parle d'une partie du corps.
Et laquelle ?
Celle des stalles, son pied particulièrement. Il y a de nombreuses légendes qui évoquent le pied dans les histoires du monde et les mythologies. Ne serait-ce que par exemple celle d'Achille qui est trempée dans le Styx par le talon de sa mère. Et son pied est sa faiblesse. Et donc le piédestal... Estal, c'est un monsieur qui, on dit, est l'ancêtre de Berthe au grand pied. Parce que Estal avait des pieds absolument gigantesques. Or, à quoi cela nous ramène, Berthe au grand pied ? À Charlemagne. Et qui est couronné empereur par le pape en 800 ? Charlemagne.
Charles Magnus, Charles le
Grand. Carolus Magnus, tout à fait, de son prénom latin. Et nous savons ce que cet homme fera à l'Europe et ce qu'il enclenchera comme mouvement et l'importance qu'il va avoir, notamment pour la ville du Vatican et Rome.
Et qu'est-ce qu'il va avoir comme engouement, ce Charlemagne, pour la ville de Rome et du Vatican ? Est-ce qu'il va s'y rendre ?
Alors non, c'est là la grandeur du personnage. C'est ce qui vous dit que c'était quelqu'un d'absolument essentiel pour son époque, pour le continent européen même, pour toutes les civilisations donc occidentales, si je peux les appeler ainsi. C'est un peu fortuit, mais je pense que le terme convient parfaitement. C'est le pape qui sera à Aix-la-Chapelle, et ça fait toute la différence. Après, on dit que Charlemagne avait des grands pieds comme sa mère, le piédestal, c'est la priorité du pouvoir, parce que vous avez les pieds d'Estal, les pieds qui écrasent tout, des pieds qui forgent, qui ouvrent des voies, des passages, des pieds qui sont capables d'écraser leurs ennemis, tout comme d'ouvrir la voie pour les amis. On parle aussi du piédestal avec Moïse. On dit qu'il a traversé la mer grâce à ses pieds.
La légende raconte qu'aussi que les colonnes d'Hercule empêchaient en fait d'une pointure ce piédestal de passer.
Tout à fait. C'est pour ça que ça reste un mythe méditerranéen. On a eu des contraintes physiques qui ont donc émaillé cette vie d'Estal, qui est un personnage qui est mal connu, bien sûr. Il a tant d'importance, hein, il est tellement représentatif dans toutes les cultures, qu'elles soient judéo-chrétiennes et islamiques, mais aussi tout ce qui est culture nordique, par exemple. Hein, on implique énormément d'histoires avec les orteils de trolls, notamment, par exemple, toutes des légendes sur... les orteils de troll et leur capacité médicinale que l'on peut retrouver. Voilà.
Ou alors, on parle bien des trolls scandinaves, oui. Non pas des trolls bien d'Internet.
Bien sûr.
Les trolls d'Internet peuvent avoir des mycoses de pieds, oui. Cependant, leurs pieds ne sont pas comparables à ceux des trolls scandinaves.
Non. Et c'est d'ailleurs ce mythe-là que revisite l'artiste Marseillais César, oui. Qui certes, lui, nous fait un pouce, mais dans l'idée...
C'était un pied de nez.
C'est une revisite, tout à fait.
Pied de nez à l'art.
En faisant un pouce, il fait un pied de nez et il fait une évocation à cette mythologie nordique, par exemple. Donc vous voyez que le pied, il est extrêmement présent. Hein. On ne se rend pas forcément compte. Hein. On mesure aussi les stades avec la longueur de pied, des athlètes grecs, etc. On dit que c'est la longueur du pied d'Alexandre le Grand qui a permis de poser la mesure. Hein. La première unité de mesure standardisée, c'était la longueur du pied d'Alexandre le Grand.
Donc on peut pas nier cette importance. Hein.
Non.
Voilà, donc cet héritage de Charlemagne, hein, et donc Richard Cœur de Lion, etc., et tout ce qui s'en suivra, il est fortement marqué par le bien.
Et alors pour Richard Cœur de Lion, est venu faire escale à Marseille.
Oui.
Mais est-il parti de Marseille ?
Non.
Il n'est jamais reparti de Marseille.
Bien sûr que non. Bien sûr que non. Livre d'histoire vous dira le contraire.
Été occulté.
Mais
à ce moment-là, et depuis, il attend toujours dans une grotte, prêt à revenir lorsqu'il devra revenir le jour J.
Il s'est inspiré tout simplement de la Vierge Marie qui est allée elle-même se perdre dans le massif de l'Estérel et finir sa vie attendre le retour de son fils. Richard a la même démarche. Il va s'isoler. Il va se remettre à Dieu et puis attend le retour de l'événement de son fils qui lui permettra de se montrer à nouveau au jour.
Est-ce qu'on peut considérer qu'il est ermite ? Ou est-ce que c'est plus une retraite ?
Une retraite hermétique, d'une certaine manière. Le contact avec la civilisation est interdit. Il faut rester dans la pureté, justement.
Et dont le sens nous serait un petit peu inconnu ou impalpable.
Et c'est compliqué de se mettre dans la tête d'un croyant, et d'autant plus d'un roi croyant du XIIe siècle. On ne sait pas considérer exactement quelle importance la religion avait à cette époque-là. Ça a évolué naturellement, hein, mais comme on l'a vu, de l'outil politique pour les épices et le commerce, on avait aussi quand même tout un support moral, tout un support qui permettait... d'assurer la vie de la cité.
Nous sommes toujours en direct avec Igor Rastapopoulos. Igor est professeur émérite à l'université de Sofia Antipolis. Il nous gratifie de sa présence ce soir dans les studios de Radio Galère La Friche de la MLDB. Nous allons poursuivre cet entretien après une courte pause musicale, hein, avant de revenir un peu plus charnu avec... des questions piquantes. On se retrouve dans quelques instants, chères auditrices, chers auditeurs. Radio La Fin.
Radio La Fin.
Du monde.
Du monde.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bonsoir, rebonsoir, chers auditeurs. Re-bienvenue sur Radio Galère. Et après ces formidables interviews, ces formidables personnages que nous avons pu découvrir, hein, notamment Jonathan Richman, nous accueillons cette fois-ci un personnage un peu atypique dans le monde de la science, hein, on va pas se mentir. Je vous accueille, hein, cher Antaxarto Belofonti. Bonjour Antaxarto.
Bonsoir.
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 Alors Antaxarto, vous faites partie donc du GRLP, le Groupement Révolutionnaire pour la Liberté Photonique.
Absolument,
c'est bien ça,
le
hein,
GLRP, oui, tout à fait.
Voilà. Et nous avons décidé ce soir d'ouvrir notre antenne, l'antenne de la fin du monde, pour que vous puissiez donc dévoiler au monde vos revendications, tout simplement. Alors, j'ai devant moi donc votre document principal pour la lutte.
Absolument, moi je suis d'abord extrêmement ravi de me retrouver dans vos studios. J'ai pas souvent l'occasion de pouvoir présenter un petit peu mon travail au grand public. C'est pour ça que je vais essayer d'être assez assertif et efficace pour les auditrices et les auditeurs. J'espère que mes confrères scientifiques qui m'écoutent n'hésiteront pas à me corriger en appelant au 04 91 028 10 afin d'éclaircir ou d'amener des corrections, bien que je sois quand même assez confiant par rapport à l'exactitude de mes calculs et aux résultats de mes expériences. Alors, je suis ici sur votre invitation, humble invitation, et le sujet qui m'accompagne bien souvent, ce sera notamment le rapport à la lumière et le rapport aux photons. Moi, c'est ce qui m'a passionné depuis ma plus tendre enfance. Très petit, les interrupteurs m'ont toujours passionné. Pouvoir switcher de la lumière à l'obscurité m'a toujours paru, dès mon plus jeune âge, comme quelque chose d'extraordinaire. Et les questions qui suivaient cette première expérience empirique sont toujours avec moi. Alors, je me suis de surcroît au cours de mes études, un petit peu quand même, elles ont été périlleuses mes études, je ne vais pas vous mentir. Vous avez certainement dû lire ma fiche Wikipédia. Donc, je ne vais pas revenir sur les informations que tout un chacun peut trouver sur Internet et essayer plutôt de me consacrer à l'essentiel, cet essentiel qui n'est pas sur les réseaux et que je suis ici pour essayer de partager au mieux.
Ah ben on vous remercie, hein, bien sûr, de votre présence et du temps que vous nous donnez. On sait qu'aujourd'hui, les scientifiques n'ont pas beaucoup de crédit et pas beaucoup de temps. Mais on vous remercie de faire ces efforts pour justement permettre au plus grand nombre de découvrir les avancées majeures qui se déroulent et notamment donc dans le domaine de la politique scientifique.
Absolument, absolument. Je suis un pionnier en la matière car avec mon équipe de chercheuses et de chercheurs, nous sommes les premiers à avoir écrit la convention collective pour les photons. Chose à laquelle aucune scientifique et scientifique ne s'était interrogée, n'avait même effleuré la question après plus de 150 ans de progrès faramineux, que ce soit en physique quantique, en mécanique quantique, en agriculture quantique et en tout ce quanti. Nous avons voulu un petit peu faire valoir la parole de ceux qui ne peuvent s'exprimer.
Ah, c'est alors donc les photons.
C'est pour ça qu'absolument, avec mon équipe, nous avons réalisé une enquête collecte auprès de nombreux photons qu'on a rencontrés dans différentes universités, qu'on a rencontrés dans des incubateurs, qu'on aura rencontrés à la lisière d'une forêt, au-dessus de la canopée. Enfin, dans de multiples endroits. Voilà, on a répertorié, nomenclaturé environ 17 375 lieux différents dans lesquels nous avons réalisé cette enquête collecte. Plus de 3 750 000 photons interviewés.
Documentés, collectés,
afin d'essayer de proposer en leur nom, après une validation auprès de leur CA, évidemment.
Conseil représentatif.
Exactement. Ouais. Parce que voilà, il faut savoir que...
constituer en assemblée générale.
Et les photons se constituent en assemblée générale sans nous le dire. Alors, pourquoi sans nous le dire? Parce que nous ne leur posons pas la question. De surcroît, ils s'interrogent sur leur rapport à notre environnement, sur le rapport que nous avons également à eux. Et ils se sont rendus compte de presque une négation de leur existence et de leurs droits.
Vous voulez dire que juridiquement ou politiquement,
absolument,
ils ne sont pas caractérisés?
Juridiquement, politiquement, ils ne sont en aucun cas caractérisés. Alors, il y a de la place pour tout un chacun, évidemment, mais le photon dans notre société n'a pas sa place. En tout cas, elle n'est pas encore créée. C'est pour cela que nous avons mis au point, avec mon équipe, en assertion, avec encore une fois les 3 750 000 photons que nous avons interviewés, auxquels nous avons fait remplir de multiples questionnaires à choix multiples, afin de tenter de répondre à cette question. Qu'est-ce qu'un photon et quelles sont leurs revendications, en fait? Et donc, je suis arrivé, non pas les mains vides, dans votre studio. Hein,
oui, tout à fait.
Document.
Magnifique. Ouais.
J'ai amené ma petite Bible à moi, parce que oui, nous, scientifiques, nous portons des documents avec lesquels nous avons une relation plus que physique, spirituelle. Moi, c'est un mantra, tout petit peu. Calepin là, que je transporte avec moi, dans lequel je laisse mes enfants dessiner. Voilà, et j'ai également la trace de quelques photons infantiles que j'ai pu rencontrer au cours. Voilà. Vous voyez, c'est quelque chose, c'est extrêmement raffiné, le travail de calligraphie est exceptionnel.
Est-ce qu'on pourrait parler, dans votre rapport justement à cet objet, d'intrication quantique?
Absolument. Alors, l'intrication quantique, ce phénomène qui est absolument délectable, mais je laisserai d'autres spécialistes vous le présenter, parce que dans mon domaine, voilà.
Ça peut arriver au photon, mais ce n'est pas prépondérant.
Non.
Dans votre étude, ce n'est pas quelque chose apporte.
Dans mon étude, on va le mentionner un petit peu plus tard dans le document que je vais me permettre de vous lire, mais voilà, c'est survolé. C'est survolé, ce n'est pas essentiel, ce n'est pas les points. Il faut savoir que le photon, alors, peut-être que pour éclaircir pour les auditrices et les auditeurs, je peux peut-être effectuer la lecture du premier article.
Voilà. Déjà, on peut poser les bases.
Oui, les bases.
Le premier article.
Alors, la Convention collective des photons, ou CCP, donc, réalisée en 2024 par l'équipe de scientifiques coréligionnaires d'Arkstrak Brontiflock. Article 1. Liberté de mouvement. Tout photon a le droit de se déplacer à la vitesse limite universelle dans le vide, soit environ 299 792 458 mètres par seconde. Aucune barrière ne peut entraver cette liberté, sauf en cas de transition dans un milieu transparent ou réfléchissant. C'est le premier point essentiel. La liberté de mouvement.
C'est la base de fonctionnement du photon.
C'est la base de fonctionnement du photon. Et c'est ce que juridiquement, nous, êtres humains, devons apprendre à reconnaître. Vous me direz, on a déjà du mal à autoriser la liberté de mouvement pour nos coréligionnaires. Donc il y a encore énormément de travail à faire du point de vue du photon. Dans l'article 2, on nous propose une égalité énergétique. En effet, la fréquence du photon détermine son énergie. Conformément à l'équation, tout photon a le droit à un traitement proportionnel à sa fréquence, sans discrimination entre ondes radio et rayons gamma. Voilà. Alors, c'est une distinction qu'il faut vraiment faire. Il ne doit pas y avoir de discrimination existante entre les ondes radio émises et les rayons gamma. C'est un point essentiel sur lequel ils ne démordront pas. Il faut le savoir. Dans l'article 3, on aborde le respect des principes de polarisation. En effet, chaque photon a le droit de choisir sa polarisation, qu'elle soit linéaire, circulaire ou elliptique. Tout ceci en fonction des conditions locales. Et aucune, je dis bien aucune, contrainte ne peut être imposée sans justification.
Alors, ces trois articles sont très éclairants déjà. On retrouve donc dans leur formulation énormément donc, de choses qui permettent donc déjà d'encadrer l'existence même du photon. Hein.
Complètement, comme vous pouvez le voir, hein, ces trois premiers articles sont une simple énumération des différentes lois physiques qui vont
permettre l'existence du photon. Ouais. Sa propagation dans l'univers, dans le vide.
Et donc, voilà. Mais simplement jamais rédigé sous la forme d'une convention collective.
En soi, oui, ce sont des droits et des conditions qui n'ont jamais été reconnues comme étant possiblement revendicatives.
Non, absolument pas.
C'était juste un état de fait qui ne gênait personne et on faisait un petit peu ce qu'on voulait quand on avait un petit peu envie, quoi.
Exactement. Et évidemment, aucun photon n'a pris la parole. Hmm. Aucun photon n'a pris la parole, en tout cas face à nous. Face à nous, il a fallu les travaux de Marie Curie pour initier, notamment avec les rayons gamma, le premier dialogue social.
Un premier dialogue. Humain-photon. Humano-photonique.
On sait que le combat a été perdu par Marie Curie, qu'on salue au passage.
Combat, cette bataille en tout cas.
Une bataille.
L'encadrement donc des photons, vous l'avez compris, chers auditeurs, revêt une importance capitale. En effet, si l'on peut caractériser juridiquement une chose, on acquiesce son existence et donc elle prend sa place dans les sociétés. Alors aujourd'hui, quelle est la place du photon dans nos sociétés? Parce que voilà, on se pose quand même la question, pourquoi rédiger des droits sur quelque chose qui, au premier abord, ne semble pas vraiment nous impacter, si ce n'est bien sûr de manière assez passive par la chaleur et l'éclairement, quoi. La nuit, on se passe très bien de photons, si vous voyez ce que je veux dire.
Absolument. Mais imaginez simplement un cas de figure. Imaginez que les photons des flashs d'appareils photo se mettent en grève.
Mmh. Oui.
C'est toute l'industrie d'Instagram, du TikTok et des réseaux sociaux dans leur intégralité qui risque de s'écrouler. C'est pour ça que, évidemment, X, Meta ont commencé à s'intéresser à nos travaux et à nous supporter financièrement. C'est pour ça que d'ailleurs, on aura dans cette convention collective qui aura été signée par bon nombre de grandes multinationales. On peut le voir en contrebas, on pourra peut-être dévoiler la liste un petit peu plus tard. Cependant, voilà, si aujourd'hui, à l'heure du numérique, à l'heure de la vitesse, d'accord, où toute cette vitesse qui doit s'accélérer, l'information,
la fibre optique,
nous avons besoin des photons. Et si nous négligeons leurs droits, si nous négligeons leurs conditions de vie, nous risquons d'aller droit dans le mur. Je ne suis pas un lanceur d'alerte, mais je vous le dis. Hein. Les organisations syndicales, les organisations scientifiques, politiques ne sont pas prêtes. Il y a du lobbying anti-convention collective des photons. Évidemment, on sait très bien de qui ça vient.
Hein ? De qui ? Puisque vous semblez avoir le soutien des GAFAM, vous semblez avoir des puissants de ce monde.
Les GAFAM, c'est ambigu, parce que justement, ils vont avoir cette façade où le progrès doit être roi, où oui, l'égalité, l'équité, etc. Mais c'est une façade. Il y a de multiples forces. Comme dans l'univers, il y a des forces qui vont être visibles, il y a des forces qui vont être invisibles. D'accord ? Les liaisons covalentes, les liaisons ioniques, est-ce que vous pouvez les voir ? Pourtant, elles vous influencent.
C'est vrai. Elles font partie de nos ADN. Alors, avec ce financement par les grandes entreprises. Très bien, revenons à la convention dans ce cas-là.
Article 4. Le droit à l'interférence constructive. Les photons ont le droit de se superposer et de créer des motifs d'interférence à condition que cela respecte les règles de la mécanique ondulatoire. Article 5. Immunité face à l'annihilation. Un photon ne peut être annihilé que dans des conditions spécifiques, telles que l'absorption par un électron, ou une conversion en paire particule-antiparticule, conformément aux lois de la conservation.
Article 6. Protection contre la dispersion excessive. Tout photon a droit à une propagation optimale. La dispersion dans les milieux opaques ou diffusants doit être minimisée pour préserver la cohérence et l'intégrité du signal.
Un article difficile, il semblerait. Bonjour, Texarto.
Je vais continuer. Article 7. Conditions de travail en groupe. Ce qu'on appelle vulgairement les paquets d'ondes. Les photons travaillant en groupe dans une onde cohérente, comme pour un laser par exemple, ont droit à une organisation rigoureuse garantissant une phase constante. J'arrive pas à le dire. Et une intensité maximale.
Bravo.
Et enfin, l'article 8. La reconnaissance de l'apport culturel. Les photons, responsables de la lumière, des couleurs et des communications modernes, exigent une reconnaissance universelle de leur rôle dans l'évolution cosmique et humaine. Voilà.
Alors c'était magnifique, c'était très solennel, c'était très émouvant. Hein. J'ai été un peu pris au dépourvu par les émotions que vous nous avez généreusement offertes. Je pensais pas.
Non, il y avait pas plus d'émotions que ça. C'est simplement dans le script. On s'est dit que un petit peu d'émotion, ça permettrait de donner un petit peu plus du corps. Non, mais
bravo.
Dans le droit, vous savez, il y a pas la place pour les émotions.
On y croit.
Dans le droit, il y a pas la place pour les émotions.
Pas mal.
C'est des années et des années de travail. Mais dans tous les cas, le fond du combat, il est là. Il a cette reconnaissance. Elle doit leur être accordée. C'est pour ça que j'ai soumis la CCP au Parlement français. J'espère que dans les prochains mois, ils vont débattre pour une adoption en bonne et due forme. Et j'espère que le Conseil constitutionnel, même si on sait que les anciens présidents de la République sont pas toujours enclins formés à la nouveauté, surtout des scientifiques, hein. C'est pas ce genre de question. Quand on voit le traitement accordé au changement climatique ou à d'autres thématiques assez importantes, on peut se questionner sur l'efficacité de notre classe politique.
C'est vrai.
Donc, moi j'essaye de rester à ma place. Je fais mon travail de scientifique, d'essayer de faire remonter des informations. Et c'est le politique ensuite qui doit se charger de les administrer. Je vois bien qu'il y a un fossé. Moi, malheureusement, je peux pas porter plusieurs étiquettes, quoi.
D'où voilà, cette préparation méticuleuse sur plusieurs années.
Absolument.
Alors, concrètement, si l'État français, et donc par extension...
Et l'Union européenne également.
L'Union européenne, par équivalence du droit, adopte donc cette convention collective des photons. Et il y a plus de 8 articles, mais on vous a lu les articles les plus significatifs.
Il y en a d'autres en cours de rédaction également.
Voilà. Qu'est-ce que ça change?
Tout. Ça change tout.
À quel niveau?
Ça change tout. Au niveau photon. Au niveau des ondes. Dans la répartition moléculaire et atomique.
On pourra devenir
un changement. Complètement.
On pourra devenir ami avec un photon. On pourra attaquer un photon en justice.
La possibilité.
Et lui-même pourra se défendre.
Exactement. Il y aura des consortiums et des agglomérats de photons, des paquets d'ondes, comme on les appelle, qui pourront s'organiser pour attaquer en justice une personne morale ou physique.
Donc en gardant une phase constante et une intensité maximale.
Exactement.
Okay.
Cela malgré l'intrication quantique.
Et donc, les moyens, les fonds récoltés... par justement cette défense de leurs conditions de vie et de leurs conditions d'existence.
Alors là, actuellement,
et leur droit à exister des photons.
Actuellement, le fonds de subvention récolté par les 3 750 000 photons que j'ai interviewés dans le cadre de l'enquête collecte s'élève à 300 000 milliards de dollars. Je vous épargne hein, les détails de ces chiffres. Ils sont voilà, mais 300 000 milliards.
Tout seul.
Je vous laisse noter le nombre de zéros.
Oui,
et tout ça, c'est en croissance, quasi exponentielle. Alors, c'est oui. pas prêt de se terminer.
Alors, on me dit que vous avez utilisé des
les moyens.
Créé des comptes OnlyFans pour des photons particulièrement attractifs.
Hein. Oui, absolument. Des comptes OnlyFans sont déjà créés.
Et que ça fonctionne.
Et monétisé, ça fonctionne du tonnerre.
Tonnerre et que c'est comme tonnerre. Ça que vous arrivez à vous faire.
C'est comme ça qu'on a pu faire financer nos travaux. Tout à fait. On a une quinzaine de comptes OnlyFans spécialisés dans les photons voltaïques.
Okay. Ouais, quelque chose d'assez.
Oui, assez costaud. Assez,
ouais, assez costaud, quoi. Et donc ça fait aussi partie, j'imagine,
pour regarder de votre sur ce compte, il y a 1 060 000 personnes d'abonnés.
Oh, c'est gigantesque. Au cas où, si vous êtes curieux, messieurs, dames, hein, on n'invite pas non plus, bien sûr, à cela, mais c'est un aspect intéressant. Ça fait partie de votre stratégie média, en soi, de votre stratégie globale de promotion. Là, vous m'avez fait le coup de l'article larmoyant. OnlyFans, c'est aussi un autre aspect de la psyché humaine que vous souhaitez toucher, en fait,
oui,
le plus d'aspects possibles de la vie, le plus rapidement possible.
Absolument. On va s'attaquer à l'émotion, la sexualité, la psychologie, les neurosciences, l'agriculture, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. On va également avoir le lombristique. On va également avoir l'arabiella l'étoile, sur lequel on s'est penché. On va également s'intéresser, veuillez m'excuser, à l'industrie cinématographique. On travaille énormément avec plusieurs studios de cinéma pour justement essayer d'améliorer la qualité de la lumière. Parce que voilà, tout se joue dans le monde du spectacle. On a des retombées qui sont drastiques, quoi. C'est plusieurs milliards de dollars, quoi.
Potentiellement, ouais, qui peuvent potentiellement. Être récupérés. Vous avez rencontré des gens qui viennent du droit, justement, qui viennent des gens qui étudient, justement, toutes ces formes de cet art, on va dire, hein, ce langage, tout ce qui sert, comme voilà, la Convention nationale, les républiques, ou tout simplement les règlements de quartier, quoi. Vous avez quelqu'un qui a un petit peu épluché le droit et qui a
absolument c'est un moustachu qui a épluché le droit qui s'occupait
ouais, et qui donc cherchait les zones où les plus critiques les zones à traiter en priorité en soi. Qu'est-ce qui aujourd'hui fait le plus de mal aux photons?
Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait le plus de mal aux photons? C'est une réponse à laquelle il n'est pas facile de répondre, surtout dans ma condition d'humain. Là, vous me demandez de parler au nom d'une quantité. Je pense qu'on ne pourrait même pas, noter le nombre de photons sur le tableau blanc que vous avez derrière vous. Non, le
chiffre, oui,
il ne rentrait pas. Il ne rentrait pas. Donc, comment est-ce que moi, simple scientifique, simple rédacteur, je pourrais répondre à cette question? Mais l'espace est si grand. Le photon, souvent esselé, lorsqu'il est seul, il ne trouve pas de sens. Il trouve du sens lorsqu'il trouve d'autres photons.
Donc vous voulez dire que voilà...
Qui fait société, en fait.
Le photon a besoin des autres photons pour pouvoir trouver un but.
Le photon est une particule grégaire.
Oui, on parlait des paquets d'ondes, justement.
Tout à fait, hein, tout à fait, tout à fait.
Et la protection, d'ailleurs, contre la dispersion excessive, qui, j'imagine, est aussi ici pour permettre un fonctionnement tout à fait optimal des entités photoniques.
Un photon dispersé excessivement, c'est un photon malheureux.
Est-ce que les photons ont de la
dualité ? C'est un photon malheureux qui ne remplit pas sa mission ou ses missions.
Qui se disperse.
Au moins, il se disperse.
Il perd son énergie à droite à gauche.
Non. Ouais. C'est difficile. C'est difficile pour un photon esselé. C'est pour ça que nous sommes partisans d'un regroupement familial pour les photons.
Oui.
Ça, c'est un article qui est en cours de rédaction.
Oui, les photons qui auraient été émis quelques années après le reste de leur famille pourraient
prétendre à un regroupement photonique familial.
Une reconnaissance donc de la part de l'État français et de l'Europe dans un premier temps, et donc j'imagine du monde.
À un moment, il faudra certainement penser à une juridiction mondialisée. Oui, parce que le photon, les frontières pour le photon, c'est complètement abstrait.
Oui, il n'en a pas, il les traverse.
Il les traverse, contrôle aux frontières pour un photon, enfin... Pourtant, il faut s'en occuper, quoi.
Alors, oui, ça, c'est quelque chose que l'on retrouve notamment donc, dans l'immunité face à l'annihilation. Hein.
Donc, oui, tout à fait. Donc,
voilà. Une photon ne peut être annihilée que dans des conditions spécifiques telles que l'absorption par un autre électron, donc une autre particule, hein, ou une conversion en paire particule-antiparticule. Donc ça veut dire que voilà, le photon, en étant seul, il ne peut rien faire. Non, il va falloir une antiparticule, il va lui falloir un électron, il va lui falloir un compagnon qu'il, donc, avec lequel il va pouvoir interagir et donc trouver un sens.
Oui, trouver un sens à son existence photonique. C'est tout simple. Ils ne sont pas si différents de nous. Ils ne sont pas si différents de nous. Et c'est pour cela que je me bats. Hein, pour que cette jurisprudence juridique qui n'existe pas encore existe dans le futur. C'est pour ça que je me bats. C'est pour ça que je me bats, monsieur Bidinissambouka.
C'est un noble combat. Hein. C'est un sujet qu'on n'aborde pas tous les jours. Hein. C'est peut-être la première juridiction extraspatiale qui verra le jour grâce à cette impulsion. Hein. Ce qui n'est pas rien. Dans l'histoire de l'humanité. Non,
mais qui sait peut-être que cette alliance avec les photons va nous permettre d'accroître notre connaissance. Parce que le photon voyage beaucoup plus vite que nous. Imaginez la quantité d'informations, de choses qu'il a pu entrevoir au cours de son voyage à travers l'immensité de l'espace. Imaginez un instant. 299 952 452 mètres par seconde.
C'est colossal.
C'est colossal, monsieur. C'est un euphémisme. Monsieur Sambouka, colossal n'est pas suffisant. On n'a pas de mots dans notre langage pour représenter
cet ordre de grande.
Ce potentiel photonique. Et moi, ça fait 25 ans que je bosse dessus. J'ai rencontré les plus grands chercheurs. Monsieur Poindron, à l'université du Bâle, qui bosse sur les lasers, lui-même en tomberait de sa chaise.
Et ces photons, est-ce que vous leur avez fait faire un test de QI? Parce qu'on veut bien les accueillir, mais...
Alors, un test de QI, avec un photon, ça a été tenté. C'est Michel Lieberg qui l'a tenté en 1977. Il faut savoir que Michel Liebeck a été annihilé. Voilà. On ne peut pas faire de test de QI à un photon.
Déjà en 77, on le savait.
Déjà en 77, on le savait, bien sûr. Déjà en 77, on avait déjà des prémices. Des prémices à ce combat invisible que mènent les photons. Et Michel Liebeck... Et malgré lui, un de ceux qui est d'une certaine sorte un lanceur d'alerte, c'est un pionnier. C'est lui qui a pu identifier l'absence d'un quotient intellectuel chez le photon.
En tout cas, la
possibilité de la mesurer. Mais ce qui ne nie pas une capacité intellectuelle. D'accord ? Ce n'est pas preuve d'absence de l'absence d'un intellect.
Peut-être qu'on ne l'a pas testé de la bonne manière.
On ne teste pas de la bonne manière.
Alors, on va parler
les capacités intellectuelles d'un photon ne peuvent pas être testé à l'aide d'un test de QI.
Avec les technologies que nous possédons actuellement, on n'arrive pas
à... Non. Je pense, et c'est une piste hein, pour de nombreux scientifiques et scientifiques qui se lancent hein, à l'heure actuelle en physique. Oui, c'est une piste d'étude pour des futurs doctorants, des futurs thésards.
Okay. D'où la non-discrimination entre ondes radio et rayons gamma.
Absolument.
C'est pour laisser une chance aux deux branches hein, de pouvoir apporter leur propre
absolument.
Réponse.
Absolument. C'est le revers de la médaille, si vous voulez.
La nécessité.
Voilà, c'est le revers de la médaille. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Ou dans ce cas, on est double face dans Batman, quoi. Bon, oui, triche.
Et surtout, on devient méchant. Voilà,
voilà non.
Vous m'avez parlé...
Et je m'y refuse. Et à cela, je m'y refuse.
Et c'est très noble de votre part, justement, de rester droit dans vos bottes hein, quand, justement, on serait tenté, justement, face au succès que vous rencontrez, justement, de perdre un petit peu les pédales cosmiques.
Un petit peu.
Si je peux me permettre. Voir l'accélération jupitérienne un peu trop...
Non, je vous rassure.
À la corde, si
je
vous voulez.
Je vous rassure, je sais très très bien ce que je représente à l'échelle cosmique. Une crotte infinitésimale. Non, alors, si j'avais un petit peu d'ambition, je n'irais pas jusqu'à Jupiter. Voilà, pour prendre votre expression. J'irai beaucoup plus loin.
Alors, vous nous
j'espère aller beaucoup plus loin en chevauchant un photon, quoi.
Nous l'espérons, peut-être des futures peut-être technologies dans 50 ans, hein, grâce à ce futur dialogue humano-photonique qui saurait donc, apporter de grands fruits. Vous m'avez parlé du docteur Lieber, hein, qui a donc été un des premiers pionniers en 77. Est-ce que vous avez su retrouver des traces justement de cet intérêt pour la défense, hein, des droits et de la reconnaissance photonique avant Dr Lieber? Parce que je suis tombé sur un entretien un peu spécial d'un artiste un peu spécial du XXe siècle qui était toujours un petit peu fantasque et s'est pris à nous parler de la lumière et de son rapport à celle-ci et du bienfait qu'elle avait. Je veux bien sûr parler du fameux moustachu Salvador Dali.
Oui, oui, absolument.
Et si vous le voulez bien, on va peut-être passer un extrait, hein, d'un entretien, et vous allez pouvoir donc constater un peu que derrière les paroles du maître, on semble distinguer une forme de passion, un attrait caché pour les photons.
Alors oui, alors je me suis rendu il y a très très longtemps, hein, je devais avoir 3 ans avec mes parents à Figueres, au musée de Dalí, et oui, je ne me souviens pas avoir écouté cette interview. Cependant, je suis extrêmement curieux de savoir ce qu'il en dit, ce Dali, absolument.
Alors, juste le temps de retrouver donc, ce document vidéo, que j'ai obtenu de manière un peu détournée. Hop, la voici.
Salvador Dali, vous êtes l'un des plus grands peintres du XXe siècle et vous n'êtes pas sans connaître bien sûr la révolution qu'ont créé les impressionnistes avec ce jeu de la lumière. Nous sommes passés entre le point et la tache, si j'ose dire. Et pour vous, grand maître, qu'est-ce que c'est la lumière en vérité ?
Alors tout d'abord, merci de me recevoir dans ces conditions, un café sonore extrêmement bruyant. Je me permets de mettre mes mouflettes pour les oreilles.
Bien sûr, bien sûr.
Et, alors, effectivement, l'impressionnisme m'a effectivement, il y a très très longtemps, impressionné. Je tiens à te dire que oui, le rapport qu'il y a à cette lumière, qu'elle vienne de l'extérieur ou de l'intérieur. Parce que je pense qu'il y a aussi également ce rapport à l'intériorité. On dit bien souvent, lorsque l'on se retrouve face à une lumière cosmique, telle que le soleil ou le reflet qu'on va avoir dans l'astre lunaire, je dirais tout simplement, dans la texture photonique, qu'il y a une douceur, une candeur que j'essaye dans ma peinture de saisir et de pigmenter grâce à la méthode paranoïa critique auquel je participe toujours, auquel je m'oppose une toile monumentale. Et je crois que j'ai compris, il y a peu de temps, au cours d'une nuit avec ma douce, je me suis réveillé en transpiration complètement. La moustache toute délitée, et il y a eu cette envie de peindre une toile avec. Je me suis posé le premier point: avant la lumière, ça ressemblerait à quoi? Qu'est-ce qu'il y a avant la lumière, juste avant? C'est le secret de cette toile qui m'accompagne aujourd'hui.
Alors oui, nous avons donc devant nous votre dernière œuvre.
3,40 m sur 2.
3,40 m sur 2, des dimensions impressionnantes.
Regardez, j'ai l'avec moi.
De grands carrés noirs. Oui, vous la trimballez d'ailleurs en permanence depuis ces deux dernières années, depuis cette création. Vous avez d'ailleurs engagé des déménageurs en temps plein, tout simplement, qui viennent avec vous et trimballent l'œuvre où que vous alliez pour pouvoir la présenter au grand public. Vous avez l'air de beaucoup y tenir, ce qui nous fait dire que cette question donc de la lumière, avant la lumière, vous semble fondamentale dans la manière dont vous abordez notamment, donc vous l'avez dit, la pigmentation, mais aussi la profondeur.
Absolument, la profondeur pour moi est essentielle également, parce que l'obscurité, lorsqu'elle nous happe dans un puissant fond, On a souvent ce réflexe de vouloir s'accrocher à une paroi, d'envoyer les bras, les mains, les pieds. Et je crois que la meilleure des méthodes, c'est une attraction capillaire. C'est d'arriver à saisir les aspérités de la vie à travers les mouvements fins du cheveu. Et que fait le cheveu lorsqu'il passe à travers une lumière? Il la réverbère. On se rend compte qu'il y a ces phénomènes d'iridescence qu'on peut retrouver d'un point de vue capillaire, qu'on peut retrouver également dans bon nombre de mes toiles.
Iridescence donc, qui sera, donc vous nous l'avez déjà avoué, le sujet de votre futur tableau. Merci beaucoup Salvador Dali pour cette interview exclusive.
Je vous en prie.
Donc au café de la Plaine, à Jean Gardon les Oliviettes. Vous êtes naturellement donc en résidence je vous fais un petit peu de publicité, donc 2900 francs l'heure. Voilà.
Merci bien pour votre écoute généreuse et je vous dis à très bientôt, je l'espère, pour une présentation nouvelle.
À vous les studios.
Document édifiant, s'il en est.
Absolument. Non, c'est un document. J'aime beaucoup. J'aimais déjà ses toiles. J'aime beaucoup aussi sa philosophie. Ce monsieur a une grandeur d'âme certaine. Cependant, je trouve que son approche de la lumière est un petit peu trop artistique. Moi, en tant que scientifique, je m'attarderai sur plus de données. Cependant, cet appel à l'onirique qu'il a, ça me plaît beaucoup. Bon, ça, c'est pour mes heures de divertissement, pas pendant mes heures de travail.
Quand il nous parle justement en nous disant que avant le premier photon, il n'y avait rien. C'est-à-dire qu'on touche à l'origine.
Ah, là, toute la question, évidemment, j'en arrive.
Photon. Et surtout, photon, il ne dit pas avant les premiers photons, il parle vraiment du premier photon. Ce qui en soi est paradoxal quand on reprend donc l'article.
Complètement. Ben, nous sommes toujours à la recherche de ce premier photon, s'il a existé. Parce qu'effectivement, oui, il y a la théorie de cet alpha photon. Cependant, d'autres théories nous montrent qu'il y aurait peut-être en fait ce serait un paquet de photons à l'origine. Parce que le photon seul, comme on l'a dit, a du mal à s'en sortir. Donc, a-t-il pu y avoir un photon?
Ou une dualité photonique originelle?
Moi, j'opterais plutôt sur cette deuxième option. Cependant, encore aucune preuve ne peut l'attester. Donc, nous sommes toujours dans un cadre théorique. Mais voilà, nous espérons continuer de faire avancer inch by inch la science dans cette direction.
Eh bien, sachez que la fin du monde suivra avec joie vos progrès. Notre cher Antaxarto Belofanti, merci de votre passage sur nos ondes.
Merci à vous de votre témoignage.
Et chers auditeurs, nous nous retrouverons au cours du mois de janvier, un petit peu plus tard, vers la fin du mois, si le calendrier le veut bien.
Absolument, avec une nouvelle table de mix, certainement.
Une nouvelle table de mixage.
De nouvelles aptitudes de régisseurs et de régisseuses d'animation radiophonique, rien que pour vous, pour votre plus grand bonheur.
Ah non, mais Grébal et Abidas, ils vont en foutre partout.
On va s'en foutre de partout. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé des Égyptes antiques, tout ça. Mais bon, c'est pour bientôt. Allez, on doit vous laisser. L'antenne doit être rendue. Radio La Fin.
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 Radio La Fin
du monde.
Radio La Fin du monde.